Bosco Douimane.
Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le porte-parole du président de la République réaffirme l'engagement du numéro 1 burundais à ne pas se représenter à sa propre succession présidentielle de l'an prochain. Jean-Claude Karegwa intervenait dans l'émission publique ce mercredi des porte-parole de différentes institutions du pays. On fera le point dans ce journal. Et les fidèles de l'église adventiste du 7e jour venant d'ailleurs n'ont plus le droit de rendre visite à ceux de la province Bouvanza dans le cadre de leur culte. Vous aurez les explications du gouverneur de cette province. Et la Fédération de football du Burundi, un bon élève de la FIFA en ce qui concerne l'utilisation des fonds alloués à la construction des infrastructures. Le directeur chargé des infrastructures au sein de la FIFA et dans nos murs, dans le cadre d'une réunion regroupant 20 pays d'Afrique, il l'a redit. Voilà pour le sommaire. Isanganiro. Les fidèles de l'église adventiste du 7e jour venant d'ailleurs n'ont plus le droit de rendre visite à ceux de la province Bouvanza dans le cadre de leur culte. Telle est l'une des décisions prises par le gouverneur de la dite province, Terence Nobus. Boutoui, dans un communiqué de ce 23 septembre, il a fait savoir que ces décisions résultent d'une réunion tenue à l'intention de tous les fidèles de l'église adventiste du 7e jour dans la province de Bouvanza, expliquant que c'est pour la sécurité de cette dernière. Suivez Terence Nobus Boutoui.
Ce sont des décisions qui sont sorties d'une réunion conjointe faite avec les deux parties. En fait, il était remarqué qu'au moment où les locaux de la province de Bouvanza sont en train de faire des prières, les gens des provinces frontalières viennent souvent se mettre dans la sécurité. Nous avons donc opté pour prendre des décisions allant dans le sens d'empêcher les autres membres de l'église adventiste du 7e jour qui viendraient d'autres provinces de venir dans notre province sans le Nous leur avons également demandé que les autres membres des églises qui ne sont pas ceux de l'église adventiste du 7e jour ne sont pas également autorisés à entrer dans l'église du 7e jour car et aussi sont à l'origine des querelles qui s'observent. Et à la fin, nous leur avons demandé que quiconque voudrait venir faire le culte dans la province qui demande des permissions, comme ça on pourrait suivre de près s'il y a une insécurité. Voilà les quelques mesures que nous avons prises.
C'était le gouverneur de la province de Bouvanza. Le captage et le traitement des eaux du lac Tanganyika, des lacs du Nord et de la rivière Ruvyironza pourraient résoudre le problème d'insuffisance d'eau potable dans certaines localités des villes de Gitega, Rumonge, Bujumbura et Kirundo. D'après le directeur de l'eau à la régie des eaux, lors d'une réunion tenue ce mardi à Gitega pour la coordination des intervenants dans le secteur de l'eau potable et assainissement de base, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a dit que la conjugaison des efforts de ces intervenants rendra possible ces travaux de captage et traitement des eaux de ces lacs et la Ruvyironza. Les détails dans cette correspondance de Gérard Niwikira.
Les participants à cette réunion sont essentiellement des intervenants dans le secteur de l'eau potable et assainissement de base, à savoir les organisations tant internationales que nationales œuvrant dans ce domaine et les administratifs provinciaux. Certains parmi eux ont déploré de longues procédures d'obtention d'autorisation d'œuvrer au pays. C'est ainsi que ces acteurs ont demandé que cette procédure soit réduite en guichet unique de l'eau.
On pose la question de savoir cette organisation. Le temps que ça va prendre cette organisation, de passer par le ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Hydraulique, et dans les 5 départements du ministère ayant l'hydraulique dans ses attributions, aller au niveau régional, au niveau de l'administration provinciale, services provinciaux, communes, terrain, mais je pose la question s'il y a moyen, c'est une suggestion comme nous sommes dans une réunion de coordination, s'il y a moyen d'avoir un guichet unique eau et assainissement et comme ça les dossiers sont vite traités.
Toutefois, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, comme Emmanuel Akiza, répond par le négatif.
Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des partenaires qui ne suivent pas le cadre légal, c'est-à-dire qui n'ont pas de protocole d'accord avec le ministère sectoriel. À ces gens-là, vous comprendrez bien que ce qui serait en train de faire sur le terrain n'engage pas le ministère. Mais d'une manière ou d'une autre, ça engage aussi le ministère parce que si ce qu'ils sont en train de faire et que, si ce n'est pas conforme aux normes, vous comprendrez bien que le ministère sera là pour pouvoir réparer les pots cassés. Donc, nous les avons clairement signifié que dans moins de temps, ils doivent s'aligner et pouvoir signer nous allons pouvoir les mettre dans les repositions. Donc, ils doivent s'aligner si jamais ils ont à travailler sur le territoire national.
Les intervenants dans le secteur de l'eau potable et assainissement sont aussi obligés d'élaborer chacun un rapport financier annuel. Depuis Gitega, Jean Bigira pour la radio Isanganiro.
Merci Gérard. Et les démobilisés handicapés de guerre du site de Muyogo en commune Makamba réclament la reprise de leur assistance médicale suspendue depuis au moins une année. Ils déplorent que leur carte d'assurance maladie n'intervienne qu'à la consultation. Ces handicapés demandent au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de prendre en main cette question. Jérôme Hakizimana.
Ces démobilisés en situation d'handicap de Muyogo, en province Makamba, déplorent la non-assistance sanitaire il y a de cela au moins une année. Ils indiquent qu'auparavant, ils bénéficiaient des consultations 4 fois par an par un médecin qui les trouvait sur place, mais que cette fois-ci, ils se prennent en charge totalement. Pour se faire soigner, témoigne-t-il, ces démobilisés en situation d'handicap font recours aux cartes d'assistance maladie, mais que ces dernières n'interviennent qu'en cas de consultation uniquement. Il précise que l'achat des médicaments prescrits est quasi impossible. Face à cette situation, ces démobilisés craignent la gravité des maladies et demandent au ministère tutoriel de prendre en main ce problème. Contacté à propos, le porte-parole du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants rassure que l'assurance maladie des démobilisés reste en cours. Colonel Floribert Biyeleke tranquillise également que très bientôt, leur médecin parcourra tous les sites des démobilisés et même le calendrier est déjà élaboré. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Une émission publique ce mercredi des porte-parole des différentes institutions s'est tenue au chef-lieu de la province Rumonge. Le porte-parole du gouvernement burundais Prosper Ntahorwamiye est revenu sur la récente déclaration des évêques catholiques du Burundi ainsi que le retour au pays de certains politiques. Quant à Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président de la République, il a réaffirmé l'engagement du président burundais à ne pas briguer un autre mandat l'an prochain. On fait le point avec Mireille Kanyang.
Lors de cette émission publique, différentes questions touchant différents secteurs de la vie du pays ont été soulevées. C'est notamment celles relatives à un autre mandat du président burundais Pierre Nkurunziza, se basant sur des souhaits de certains. Sur ce, Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président de la République, insiste sur la parole déjà donnée. Ici, il revient sur la clôture du flambeau de la paix à Rumonge. Le président de la République a souligné que l'année prochaine, un autre président sera élu, qu'il l'accompagnera, qu'il a déjà ainsi donné sa parole, qu'en 2020, il accompagnera le président élu. D'aucuns donc ne douteraient, même s'ils sont dans la proportion de 150%, ils ne le pousseront pas à changer sa décision, une décision prise en homme de parole. Quant à la question relative à une probable rencontre entre une délégation burundaise et le Sénared, réunion tenue à Nairobi, Prosper Ntahorwamiye, porte-parole du gouvernement burundais, appelle ses politiques à l'étranger à rentrer comme d'autres Burundais, rappelant le volet justice. Quant au souhait de ses politiciens en exil de reprendre la direction de leur parti politique avant l'exil, le porte-parole du gouvernement burundais souligne que chaque parti a sa propre organisation, qui sont plutôt appelés à contribuer au développement du pays. Sur la question relative à l'appréciation du gouvernement burundais concernant le récent message du Conseil des évêques catholiques du Burundi, ayant épinglé certaines malfaçons à la veille des élections de 2020, Prosper Ntahorwamiye le trouve normal et parle plutôt d'un enracinement de la démocratie. Toujours sur ce message des évêques catholiques du Burundi, le porte-parole du président de la République souhaite la bienvenue à ces évêques sur le plan politique, à contribuer financièrement aux élections de 2020 et à ne pas les boycotter comme cela s'est vu en 2015, dit-il.
Mireille Kanyang, au cours de cette même émission, Nestor Bangomokonzi, président du Conseil national de la communication, a précisé que le procès l'opposant à la radio Bonesha FM a été tranché en défaveur de ce médium.
Le CNC a pris la décision de suspendre la radio Bonesha FM parce qu'elle ne se conformait pas à la loi. La radio a alors saisi la justice. et nous avons comparu. Donc, vous voulez savoir où en est le procès? Sachez que la sentence a été rendue il y a quelques temps et l'affaire a été tranchée en la faveur du CNC. Nous attendons aujourd'hui des formalités administratives. Et celui qui voudra consulter le libellé de ce dossier est le bienvenu. Mais sachez que la radio Bonesha FM n'a pas eu gain de cause.
Et sur cela, le directeur de la radio Bonesha FM, dont la licence d'exploitation a été retirée, dit qu'il va de nouveau saisir la cour administrative pour prouver que la fermeture de cette station est illégale. Léon Massenko.
Le CNC n'a pas eu gain de cause dans le dossier qui nous oppose. Ce qui s'est passé, c'est que la cour administrative que nous avions saisie a déclaré d'irrecevable notre dossier pour absence de la décision attaqué. Ce qui veut dire que le Conseil national de la communication doit nous donner officiellement et formellement cette décision écrite. Nous avions formulé une demande écrite. Nous sommes en droit de réclamer une réponse écrite. C'est cela que le tribunal a demandé. Et sinon, nous pensons que le dossier aussi n'a pas été analysé avec objectivité parce que l'affaire a été mise dans l'audience publique et le déclaré d'irrecevable, alors qu'il y a une audience publique, ça ne se comprend pas non plus. Et alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons procéder à ce qu'on appelle la tierce opposition pour montrer à la cour administrative qu'il y a des détails et que nous voulons que cette cour analyse. La décision vraiment apparaît explicitement dans le communiqué final de l'Assemblée générale du 22 au 23 février 2018. Ce communiqué nous refuse l'autorisation d'exploitation d'une station radio, alors que le communiqué reconnaît aussi que notre dossier est régulier et conforme à la loi.
Léon Massengo, directeur de la radio Bonesha FM. Je vous l'avais dit dans les titres, l'utilisation efficace des fonds de la Fédération internationale de football FIFA destinés à construire les infrastructures sportives par la Fédération de football du Burundi. C'est la raison qui a poussé la FIFA à organiser au Burundi une réunion regroupant 20 pays d'Afrique. Daniel Krebs, directeur chargé des infrastructures au sein de la FIFA, promet que cette organisation, la FIFA, compte continuer à appuyer le Burundi dans la construction des infrastructures sportives. Les détails avec Isne Bariko.
Dans cette réunion organisée par la Fédération internationale de football, FIFA, au Burundi, Daniel Krebs, directeur général chargé des infrastructures au sein de la FIFA, a indiqué qu'ils ont choisi le Burundi du fait qu'il s'est impliqué pour multiplier les terrains synthétiques.
Raison pourquoi on a choisi le Burundi, nous sommes très contents et fiers, Fédération Football de Burundi, comment ils ont utilisé les fonds de la FIFA, du programme Forward, pour développer le foot dans leur pays. Ils ont fait une décision stratégique vraiment de se concentrer sur les gazons synthétiques. Ils ont plusieurs gazons synthétiques qu'ils utilisent pour leur championnat et on aimerait bien montrer cette bonne étude cas avec les autres fédérations qui sont venues ici.
Mustapha Semugabo, deuxième vice-président de la Fédération burundaise de football, fait savoir que le Burundi va beaucoup bénéficier dans cette réunion, surtout dans le domaine de la construction des infrastructures sportives.
C'est une occasion aussi de présenter, de dire à la FIFA que la Fédération de football du Burundi est soutenue parce que, vous savez, la politique du pays, c'est la construction des stades par les entités locales. Alors, la FIFA compris qu'elle viendra faire organiser ce séminaire ici dans le cadre, montrer le bon exemple burundais aux autres pays africains. Le football burundais gagnerait absolument beaucoup parce que c'est un bon exemple, quitte à ce que les projets même qui vont être soumis prochainement pourront être bien analysés et bien financés à temps.
Cette réunion sur le développement des infrastructures est la 8e mondialement organisée et c'est la 2e fois qu'elle est tenue en Afrique.
Isne Bariko, en bref, les femmes leaders ont un rôle dans la consolidation de la paix et la résolution pacifique des conflits. Et ceci est dit par la directrice nationale de Search for Common Ground ce mercredi dans un atelier de partage des résultats d'une étude sur le projet de soutenir les femmes leaders pour faire avancer la paix dans cette province du pays Aitungi et Floride. Indique que dans cette province, plus de 90% de femmes sont capables de résoudre pacifiquement des conflits un des défis qu'elle évoque et que certains Bashinganae ne comprennent pas le rôle d'une femme leader. Et en actualité africaine, avant de revenir sur la chronique éducation, après deux jours de procès, les juges du tribunal militaire de Blida ont condamné ce mercredi 25 octobre à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État algérien. Les personnes suivantes, le frère de l'ex-président Saïd Bouteflika, deux anciens chefs du renseignement et une responsable politique, Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs. Il s'agit d'un procès spectaculaire d'anciens très hauts responsables que l'on croyait intouchables et qui n'avaient jamais été inquiétés par la justice. Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major et homme fort du pays, avait dénoncé un complot organisé par ce qu'il appelle la bande, qui est, comme il le répète à travers ses discours réguliers, le symbole des mots qui traversent le pays aujourd'hui. Saïd Bouteflika a été largement considéré comme le véritable détenteur du pouvoir sous la présidence de son frère. Et pour certains, il s'agit d'un règlement de compte politique.
Radio Isanganiro, chronique éducation.
Il existe diverses méthodes d'enseignement, mais elles sont généralement regroupées en deux catégories principales. Ce sont notamment celles centrées sur l'action des enseignants et celles centrées sur l'activité des élèves, comme l'explique Noari Innocent, professeur à l'université et chercheur en sciences de l'éducation. Mais des fois, l'enseignant se trouve dans l'obligation d'ajuster sa méthode en fonction du contexte de la classe. Les détails avec Marie-Claire Cazenez.
Parmi ces deux grandes catégories de méthodes, l'enseignant est là pour exposer sa matière d'une part et d'autre part, les élèves sont mis en activité, comme nous l'explique Innocent Nwari, professeur à l'université, en même temps chercheur en sciences de l'éducation.
Il y a d'abord les méthodes centrées sur l'action de l'enseignant, où l'enseignant est là pour exposer et les élèves ne sont là que pour écouter. La deuxième catégorie de méthodes, ce sont des méthodes centrées sur l'activité des élèves, où les élèves sont mises en activité, où l'enseignant n'est plus finalement là comme un transmetteur de connaissances, mais il est là comme un guide, comme un facilitateur d'accès au savoir.
Le contexte de la classe est l'un des éléments indispensables pour juger que telle ou telle autre méthode est appliquée pour une bonne marche de la leçon.
Un enseignant, il a bon préparé ce qu'on appelle une méthode essentielle en préparant son cours, mais arrivé en classe, le contexte de la classe peut faire que la méthode essentielle que l'enseignant a préparée ne soit pas applicable tous les jours. Et c'est à l'enseignant maintenant de pouvoir s'ajuster en fonction de la manière dont il a préparé son cours, mais surtout aussi en fonction du contexte de la classe. Il y a par exemple des élèves qui ont un niveau inférieur par rapport au niveau requis. S'il y a des élèves qui ne comprennent pas telle ou telle notion, et par rapport aussi à l'âge des élèves, par rapport aux facilités, aux difficultés des élèves, c'est à l'enseignant de pouvoir s'ajuster en se référant à la méthode essentielle qu'il a préparée, en se référant à la méthodologie qui est proposée dans les guides de l'enseignant proposé par le ministère en charge de l'éducation.
Un enseignant peut se rassurer que la méthode qu'il a choisie a été efficace lorsque, selon Innocent Nwari, la majorité de ses apprenants réussissent à une activité proposée.
Si 80%, par exemple, des apprenants maîtrisent des notions par rapport aux activités que l'enseignant leur a proposées, il va dire qu'il a atteint son objectif, il va dire que la méthode, finalement, semble efficace. Sauf que les 20%, il ne faut pas les jeter à la poubelle. Il faut, normalement, essayer d'individualiser l'enseignement, il faut essayer de partir des facilités, des difficultés de chaque apprenant pour amener tous les élèves à un niveau escompté. Parce que un bon enseignant est celui-là qui essaie de réduire au grand maximum l'écart entre les élèves entre guillemets forts et les élèves entre guillemets faibles.
Jusqu'aujourd'hui, il n'existe pas de méthode qui soit efficace dans toutes les circonstances, d'après ce professeur à l'université. Mais Innocent Nwari ajoute que les deux catégories de méthodes, chacune a ses avantages et conséquences. En plus, un bon enseignant et un bon élève ont chacun un comportement qui le caractérise. C'est ce qui fera l'objet de la prochaine chronique éducation.
Merci Marie-Claire Cazenez, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Un bon après-midi.